Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Agenda. Aujourd'hui, on commence l'épisode sur une note un peu plus sombre. L'alerte Amber qui était en vigueur depuis 2 jours maintenant vient juste d'être levée suite à la découverte de 2 corps inanimés des jeunes filles. Et selon les dernières nouvelles, le père des 2 jeunes filles avait été retrouvé par la suite. C'est un événement tragique. On aimerait juste envoyer nos sympathies à la famille. Et on espère, au moment que c'est tourné, le décès n'est pas confirmé, donc on croise encore les doigts pour que ce soit simplement qu'elles ont été retrouvées inanimées dans le sens inconscientes, mais bon, on connaît un petit peu le jargon. Hein. Donc sur cette note un peu plus négative, poursuivons avec l'actualité politique de la dernière semaine, quand même, parce que le monde continue à tourner malgré la COVID, malgré les alertes Amber, malgré les tragédies du quotidien.
Ah ben, il y a quand même matière à faire, hein.
Il y a quand même matière à faire.
Il y a quand même matière.
Il y a quand même matière, hein? Surtout en politique fédérale, dernièrement.
Et bon, oui.
Et ça aussi, c'est une autre tragédie, mais une autre forme de tragédie.
Oui.
Justin Trudeau qui fait un tour du chapeau, comme les conservateurs avaient bien réussi à illustrer. C'est sa 3e enquête pour un bris de
Un bris de confiance,
là, c'est ça, pour des affaires de corruption, collusion, bris d'éthique.
Ah ouais. Oui, surtout.
C'est ça. S'il était déclaré coupable par le vérif qui s'occupe des questions d'éthique, ce serait le seul, à ma connaissance, à s'être fait déclarer coupable 3 fois d'un bris d'éthique alors qu'il était en poste comme premier ministre. Puis là, on parle pas d'un gars qui était là 16 ou quasiment 20 ans comme son père. Là. On parle d'un gars qui... Ça fait 5 ans.
6 ans.
6 ans.
Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Tu l'as sûrement vu de toute façon. Là, la réponse de M. Blanchet sur la question, quand même, aussi bien de vendre le bloc un petit peu. M. Blanchet a proposé quelque chose de très simple mais d'efficace pour assurer, on va dire, la pérennité de nos institutions démocratiques. Il a proposé à M. Trudeau de tout simplement se retirer de son poste de premier ministre le temps que l'enquête se fasse et d'offrir le poste temporairement, évidemment.
À sa vice-première ministre.
Et je trouve, en fait, que, bon, d'une part, ça respecte les institutions démocratiques de monarchie constitutionnelle qu'on s'est dotée, et d'autre part, je trouve ça très, très républicain de sa part. Alors, je pense que ça serait un bon compromis, mais c'est surtout que, bon, M. Trudeau, ça va être intéressant, en fait, à suivre. Surtout par rapport à sa famille.
Le scandale,
son caractère personnel, en fait.
C'est que le scandale touche lui, mais sa famille, et même aussi son ministre des Finances.
Aussi, c'est vrai. Pas faux, c'est vrai.
Donc là, c'est plus gros que... Au début, quand on pensait, c'était juste parce que sa femme était porte-parole. Au début, dans le fond, le scandale, c'est... Justin Trudeau donne un contrat de 900 millions à la charité WE, qui est une fondation qui distribue des bourses d'études et des choses comme ça à des étudiants. Déjà, qu'est-ce que le fédéral fait à distribuer des bourses d'études, je sais pas. C'est pas en toutes leurs compétences, mais en tout cas. Bref. Mais là, il donne le contrat sans appel d'offres, en raison des pouvoirs qu'il a, la COVID-19, ça lui donne ce droit-là, même si c'est, bon, pas terrible, puis normalement, on essaye de pas s'en servir, mais enfin, bref. Ou on essaie de s'en servir en situation de crise. Lui, il donne ça à cette compagnie-là, et là, on découvre qu'il a fait le contrat sans appel d'offres et que sa femme est porte-parole. Déjà là, ça sent mauvais un petit peu. Hein. C'est douteux, c'est de mauvais goût, mais
oui,
bon.
Ben, après, il n'y a rien d'illégal.
C'est de la petite politique, c'est rien d'illégal, c'est sur la ligne grise, mettons.
Ouais,
les conservateurs, pas trop fans de ça, puis avec raison, décident de demander une vérification au commissaire à l'éthique. Je pense que le lendemain, ou quelques heures plus tard, Justin Trudeau, finalement, dit qu'on annule le contrat. Parce que ça fait des scandales et des choses comme ça. Ben, on voulait juste que ça soit positif, pas qu'il y ait de scandale. Et là, les journalistes ont commencé leur travail. Et c'est là qu'on découvre que la Fondation Oui avait donné 32 000 $ à son frère, avait donné quelque chose comme 250 000 à sa mère.
250 000, oui, effectivement. Ouais.
Et là, on se dit, bon, OK, ça commence déjà à être plus gros que ce qu'on pensait au début. Puis après ça, on réalise que sa femme aussi, Sophie Grégoire, a reçu des compensations pour avoir été la représentante, la porte-parole.
Effectivement.
Et là, finalement, en plus de ça, je pense qu'une journée plus tard, qui ça voudrait dire, je pense, 3 jours après le début du scandale, on découvre que Bill Monroe, le ministre des Finances, est en conflit d'intérêt parce que sa fille a des liens assez étroits avec la fondation aussi. Et là, on commence à se dire, mais quand est-ce que ça arrête? C'est tout l'establishment libéral qui est lié avec cette espèce de charité-là? C'est quoi?
Il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit, mais j'ose le faire, j'ose me permettre d'être un peu l'avocat du diable et de protéger le Parti libéral du Canada dans cette situation-là, parce que je ne crois pas, personnellement, je ne crois pas que c'est l'institution du PLC à proprement parler qui est dans le temps, mais bel et bien exclusivement la famille Trudeau. Tu sais, à un moment donné, c'est facile de rabouter
ça. Monsieur Morneau aussi, là?
Oui, mais légitimement, c'est un proche ami de la famille Trudeau aussi, là. Je veux dire, à un moment donné, il faut savoir faire cette petite nuance-là. Et moi, le premier de faire, regarde le PLC, c'est toute une gang de ci, de ça, de machin, machin. Mais à un moment donné, quand on prend le temps de réfléchir quand même, on peut se poser une question plus profonde, à savoir, la famille Trudeau, à proprement parler, est-elle plus qu'une simple famille politique? Moi, à mon avis purement personnel, c'est plus que ça, c'est un lobby.
Ben, le nom Trudeau, c'est une marque, là. C'est quasiment une marque.
Ben, rendu là, ben oui, tant qu'à faire, c'est une marque. Ben, tu vois où est-ce que je veux en venir? Alors, c'est... Oui, une enquête de la commissaire à l'éthique, mais plus que ça, moi je pense, et je partage l'opinion, encore une fois, des conservateurs sur cette question-là, un peu comme toi, je pense qu'il doit y avoir une enquête criminelle, pas sur le Parti libéral, évidemment, mais sur la famille Trudeau. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette famille-là, et je ne vise personne, je parle vraiment de la famille au sens général, parce qu'on s'entend que si je vise Trudeau-fils, tout découle de Trudeau père, hein, légitimement, là, on se mentira pas, là. Alors, le PLC devient simplement une espèce de bateau politique pour leur permettre d'accroître leur bien, là, au final. Alors, il faut savoir faire la nuance entre les deux, mais je pense qu'au final, ça va être intéressant de combiner les deux éléments, autant personnel que politique, pour en arriver à une conclusion, mais je pense vraiment qu'il faut une enquête, certes, à l'éthique, mais également aux criminels. Je le pense vraiment.
Parce que quand on regarde ça, puis là, je suis peut-être pas d'accord nécessairement avec tout ce que tu viens juste de dire, mais c'est vrai que pour Justin Trudeau, le titre de premier ministre est un peu arrivé du fait de son statut de... Ben, c'est probablement son nom de famille, il l'a grandement aidé, mais il y a aussi son côté rockstar un peu. Là. C'était le jeune qui révolutionnait la politique et tout ça, et ça lui a permis de se faire une image de marque. Là, on s'entend que l'image de marque, le Trudeau, depuis qu'il est devenu premier ministre, là, entre le Justin Trudeau d'avant, qui était premier ministre, où ce que les gens, c'est correct, c'était le fils de l'autre, et tout ça, aujourd'hui, il a été pogné dans tellement de scandales, les vacances avec à Gorkan, sur l'île privée, là, qui avait été vu, sa première tape ses doigts. Après ça, il y a eu le scandale du blackface, il y a eu la débandade du voyage en Inde. Il y a eu sa femme qui a pogné le COVID, c'est pas de sa faute, c'est quand même une autre affaire encore. Que...
Non, c'est sûr.
Ensuite de ça, quand il était au chalet, puis que, encore une fois, sa femme a mis des photos sur Instagram, Colin, de manière, je pense que celle-là a dû se faire jaser un peu ce fois-là, par contre, quand même.
Ben, écoute,
on va pas mettre des photos de ça sur Instagram, même bâtard.
Mais tu sais, mais ça, encore une fois, tu l'as bien dit, c'est l'image de marque de la famille et du PM. Je veux dire, tout est fait pour plaire visuellement. Et ironiquement, tu dis ça, mais hier soir, j'ai fait un petit tour sur leurs réseaux sociaux respectifs, autant Mme Grégoire que M. Trudeau. Et je veux dire, premièrement, il y a un déni total de ce qui se passe présentement, mais pire que ça encore, c'est qu'il démontre en fait à quel point le Canada est un beau pays, ci et ça, à quel point ils aident en faisant ce qu'ils font, etc., etc. Donc, c'est une game à deux d'une certaine façon, mais comme je le dis et je me répète, c'est pire que ça. C'est purement du visuel. Il y a un déni total. On ne veut pas que ça tombe dans les mains du entre gros guillemets du petit peuple. Et la preuve, c'est que les libéraux, aujourd'hui sont en avance dans les sondages de façon
Oui, mais ça, les derniers sondages étaient avant que le scandale ça. On va le savoir après.
Ça, c'est certain. Ça, c'est certain.
J'ai hâte de voir c'est quoi l'impact que ça va avoir.
Ça reste que moi, personnellement, je pense pas que ça va en avoir nécessairement. Je veux dire, la preuve est là. Bon Dieu, vous m'excuserez, mon ordi s'est mis en veille, pardon. La preuve de ce que je viens de dire, en fait, c'est que on peut le voir, malgré tous les scandales qu'il y a eu pré-élection de 2019, M. Trudeau est quand même rentré de façon minoritaire. Alors aujourd'hui, avec tous les cadeaux qu'il fait, avec toutes les mesures financières qu'il propose aux Canadiens et...
Par contre, le déficit est chiffré.
Le déficit est chiffré. Ça, c'est certain que ça va jouer contre lui, légitimement parlant, dans une certaine caste de la population, par contre.
Parce que 343 milliards, puis c'est pas fini, là. Ça, c'est planché.
C'est ça, là, je veux dire, l'année est loin d'être finie.
343 milliards, corrigez-moi si je me trompe, mais le budget fédéral de l'année d'avant était de 330 quelques milliards.
Ben, c'est ça.
Mais on a un déficit plus gros que le budget de l'an passé. Là.
Ce qui me fait le plus peur dans ce soir-là, c'est que justement, l'année n'est pas finie, et on n'est pas encore dans la deuxième vague, malgré que certains pays du monde le sont présentement. Le Canada n'est pas encore dans cette deuxième vague. Lorsqu'elle va frapper, cette deuxième vague...
Si elle frappe,
évidemment.
Parce que là, à moi, l'avoir allé, on dirait qu'on va juste rester continuellement, ou peut-être qu'il va y avoir des soubresauts, oui, mais ça semble être un petit peu.
Puis honnêtement, tant mieux. Si ça se résume à ça, c'est pas moi qui vais me plaindre. Mais advenant que la deuxième vague frappe, comme elle frappe l'Australie en ce moment, ou le Japon, etc., etc., on peut définitivement s'attendre à une catastrophe financière d'une certaine façon. Je veux dire, bon, on a perdu notre cote AAA. Ça, c'est un des premiers gros arguments qu'on peut donner à ce que
je... On l'a perdu avec une agence de cotation sur trois. Hein,
oui, bon. C'est certain qu'à ce niveau-là, bon, il faut se calmer. Ça, c'est certain. Il faut
c'est
quand
pas,
même...
C'est pas la fin du monde.
C'est pas la fin du monde. Mais ça reste que, bon, une sur trois, c'est pas zéro sur trois. Tu vois où je veux en venir.
C'est sûr, mais puis, je veux dire, je suis pas mal sûr que... Les États-Unis ont perdu leur code AAA il y a quelques années. Là, ça. Puis,
oh, oui,
ça pas, le pays s'est pas effondré. Là.
Ah non, ben loin, même loin, très très loin de là. Mais j'ai peur, pas peur nécessairement au niveau financier, mais j'ai peur de la façon que les Canadiens vont être en mesure de gérer, disons, tous ces bonbons financiers. Je veux dire, moi-même, je ne m'en mentirai pas, j'ai pris la PCU hein, pour un ou deux mois. Et je veux dire, cet argent-là, bon, je suis conscient que c'est pas tous les Canadiens qui vont raisonner de la même façon que moi sur ce que je m'apprête à dire, mais moi, ce que je me suis dit, c'est ce 4 000 $-là que j'ai réussi à acquérir en deux mois de la part du gouvernement fédéral, je me dois, en tant que citoyen, de la réinvestir dans l'économie. Alors, c'est pour ça que j'ai pas gardé cet argent-là pour moi. Hein. Je l'ai pas mis dans un fonds de pension ou quoi que ce soit. Je l'ai dépensé. Je l'ai investi et pour bonifier l'offre locale. Et j'en suis très fier. Je suis très fier de dire ça. Et d'une certaine façon, je pense que c'est un peu ce que M. Trudeau voulait faire légitimement avec cette subvention financière. Mais clairement qu'il y a des abus. T'sais, je veux dire, ça, on peut pas s'en passer, malheureusement.
Mais je veux dire, il était dans une situation où que, si tu fais rien, ben, ça va être. Ça a arrêté les faillites partout. Là,
bon, ouais, ben c'est ça, c'est justement.
Et si tu fais justement. Ça, ben là, tu te fais. C'est un peu une situation, comme ils disent en anglais, damn if you do, damn if you don't. Là, t'es pogné dans les deux cas. Tu peux pas faire de miracle. Là. Fait que là, c'est certain que on serait pas dans cette situation-là si Justin Trudeau et Bill Morneau n'avaient pas fait des déficits en pleine période de croissance, de plein emploi. Le déficit serait énorme pareil. Okay, on serait au moins 250-300 milliards pareil. Là, peut-être même 320. Fait que c'est malhonnête de. Mais on aurait peut-être pu se faire un coussin un peu plus avant. T'sais. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut préparer une économie d'un pays à ça. Il faut arrêter là, le PIB qui baisse peut-être de 8% en une année. Plus que le taux de chômage a monté de 10% en genre un mois, tu sais, il n'y a rien qui te prépare à ça. Là,
non,
tu peux pas rien faire contre ça. Il faut juste que d'attendre que ça passe. Puis,
de toute façon,
c'est plate à dire, mais c'est ça pareil.
Je te lance une question à toi, Sam, parce que moi, évidemment, tu vas pouvoir en conclure que je ne peux pas répondre à ça avec les connaissances que j'ai. Est-ce qu'on doit vraiment s'en faire avec cette dette-là de 300 quelques milliards? Est-ce qu'on doit réellement s'en faire?
Ou... Non.
Bon, c'est bon.
Parce que je vais vous expliquer pourquoi, à ceux qui veulent déjà m'arracher la tête. Le Canada a un ratio dette-PIB très faible. Je pense que seule l'Allemagne a un ratio PIB plus faible que nous dans les pays de l'OCDE. Mm. Et même avec une dette astronomique de... Il ne faudrait pas le faire pendant 5 ans, okay, là, ça, on va se le dire tout de suite. Là. On n'a pas la grosseur de l'économie pour faire ça ad vitam aeternam, et on n'a pas le levier diplomatique comme les États-Unis ont en étant la monnaie mondiale pour juste imprimer de l'argent sans que ça ait d'effet. Non. Là, on peut le faire un an, puis peut-être déjà l'an prochain, si mettons on est chanceux et qu'il y a un vaccin qui fonctionne, ben il faut que l'an prochain, le déficit aille baisser drastiquement. On va quand même être probablement au-dessus de 100 milliards de déficit l'an prochain. Là. Faut pas se le cacher. Là. Parce qu'il va falloir réinvestir. Parce que tout ce qui est fermé, c'est des transactions, c'est de la valeur qui n'est plus créée dans l'économie.
C'est ça, là.
Donc là, c'est certain que puis c'est des taxes de moins à collecter. Donc là, c'est certain qu'il va falloir faire des choix. Et là, en plus de ça, on a un dilemme, et c'est on bâche les provinces du côté du fédéral et surtout Trudeau, comme quoi elles n'ont pas réussi à protéger leurs aînés. Les provinces se tournent, puis elles disent « Ben oui, mais là, c'est parce que tu nous donnes pas les transferts auxquels on a droit. » C'est normal qu'on puisse pas prendre soin de nos aînés, on n'a pas l'argent pour. On n'a même pas l'argent pour prendre soin de notre population générale sans pandémie. Et là, donc là, le fédéral se retrouve à déjà être dans une situation de déficit. On le voit, les sommes sont incroyables. Là. C'est presque impossible à visualiser. 343 milliards. Là. Et il faudrait, en plus de ça, bonifier les transferts fédéraux, passer de 23% à 50%. Comprenez-vous qu'à un moment donné, il manque un peu d'argent? Là?
Non, ça fonctionne.
Puis on fonctionnait en économie plein régime, avec le plein emploi. Là. C'était la meilleure économie canadienne depuis peut-être... les 25-30 dernières années. Puis on faisait des déficits à coût de 15 milliards. Mais 15 milliards, on s'entend, dans la grosseur d'économie du Canada, c'était des peanuts, là. C'est comme le Québec qui fait un déficit de 500 millions, là. C'est pas la fin du monde pantoute, là. Mais reste qu'on aurait pu faire des excédents de 2-3 milliards, le mettre dans un fonds comme le Québec fait, avec une loi sur l'équilibre budgétaire.
Exact.
Et se préparer. Tu sais, le Québec, en ce moment, là, on va faire un déficit de peu près 15 milliards. Pas plus grave que ça, c'est juste plate parce que pauvre Éric Girard, il arrive puis il fait « Hey, on a réussi nos objectifs de diminution de dette 6 ans avant. » Il se fait sacrer une droite sur la gueule par le COVID puis il fait « Bon, ok, c'est beau, tout est à refaire. » C'est tous les projets d'investissement qu'il aurait pu faire, qu'il voulait faire, utiliser le fonds des générations pour quelque chose. Non,
c'est ça. Je vais juste s'enrichir avec ce que tu as dit, là. Ça ne nous empêchera pas légitimement de continuer d'investir dans ces projets-là.
Mais sauf qu'à la place de le faire avec notre argent, on va toujours l'emprunter.
Ben, ça, c'est certain. Ben, tu sais, bon, après, si c'est ça qu'il faut, regarde, moi, j'ai pas
de... Mais tu sais, je veux dire, le Québec, c'est un peu plate parce que, bon, le Canada, la raison que je ne suis pas inquiet, il y a deux raisons. C'est que, premièrement, comme je disais, le ratio dette PIB est très bas, ou enfin, très bas, respectable à tout le monde. Je pense qu'il est à 45-50%. Dans ces coins-là, c'est sûr que là, ça a changé, fait que mes données sont peut-être plus à jour, là, mais la dernière fois que j'avais vérifié, c'était dans ce coin-là, entre 45 et 50%. Le Québec, on jouait dans ces eaux-là aussi, 45-50. Sauf que le Canada a sa banque centrale et peut imprimer sa monnaie. Il y a un côté...
Il y a les leviers
monétaires, il y a les leviers avec les taux d'intérêt, puis tout ça, que le Canada a accès plus directement. Le Québec n'a pas ça. Le Québec doit absolument... Le Québec peut faire faillite, mais le Canada ne peut pas théoriquement faire faillite si sa dette est dans sa propre monnaie et qu'il la doit en argent canadien.
Tu excuseras une parenthèse, c'est juste... C'est
ça, c'est une théorie, là, par contre, là, économique. Là.
Oh, oui, ben,
c'est la nouvelle théorie monétaire, là. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec. Là.
J'aimerais quand même... juste une très brève parenthèse. Hein. Est-ce que c'est un peu la même situation qui se passe entre l'Union européenne et la Grèce, par exemple? Est-ce que c'est un peu le même...
On pourrait comparer le Québec, effectivement, à la Grèce dans l'Union européenne, dans le sens que la Grèce, par contre, est un pays. Mais la Grèce, c'est un pays qui n'avait plus le contrôle sur sa monnaie parce que c'était l'euro, et l'euro était contrôlé par la Banque européenne. Donc, quand la Grèce s'est retrouvée dans la merde, Parce que c'était vraiment ça, il n'y a pas d'autre façon de le dire. La Grèce aurait, et dans une situation où ils avaient le contrôle sur leur monnaie, probablement baissé les taux d'intérêt, dévalué leur monnaie ou leur devise. T'sais, ils auraient utilisé des tours de passe-passe pour se sortir de la misère. Là, ils ne pouvaient pas. Et donc là, quand c'est venu le temps d'emprunter ou de repayer, ben, c'est comme si c'était dans une monnaie étrangère pour eux. Donc, ils ont juste manqué d'argent. Ils ont fait faillite. Donc là, ça, c'est certain qu'à ce moment-là, c'est... Puis là, en plus, l'Union européenne leur a imposé des mesures d'austérité, ce qui est la pire chose à faire. Ça n'a pas fonctionné. Ça a mis le pays dans une situation très dangereuse pour les citoyens. Là, on le voit avec l'Italie aussi, là, que ça ne va pas très bien. Puis en plus, pendant le COVID, ils en ont mangé une méchante. Tous les pays de l'Union européenne en ce moment, je peux te dire que il y a plusieurs politiciens qui doivent se dire « Veux-tu me dire pourquoi est-ce qu'on a signé ces estis d'accord-là? » Parce que ça les limite énormément. Ça a des avantages. Ça a des avantages, c'est bien certain. C'est une stabilité, c'est un marché commun, tout ça, mais en situation de crise, t'es beaucoup moins flexible, je trouve. Puis moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je trouve intéressant. Là. C'est sacrifier... Oui, mais en même temps, tu me demandes, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment pour l'étonation, pour la souveraineté de la nation. Puis de céder une partie de ta souveraineté pour des traités internationaux pour favoriser tes compagnies puis ta balance commerciale, moi je trouve ça absolument débile. Là. Mais bon, le monde fonctionne comme ça. Mais le Québec, comme la Grèce, pourrait se ramasser en situation. On n'est pas proche de ça. Donc prenez pas mes mots hors contexte. Là. On est loin de faire faillite en ce moment au Québec. Là. Surtout que le déficit de 15 milliards, c'est plate, mais on a une réserve de stabilisation qui est quand même de quelques milliards. Donc c'est pas, on n'emprunte pas 15 milliards comme ça. Là.
Non, c'est ça. Est-ce que ça, on la doit... je te pose la question, mais au final, je connais la réponse. On la doit définitivement aux libéraux, là, par contre, ce coussin-là. Là.
Ah oui, ben oui, c'est Jean Charest. Ben, c'est Lucien Bouchard puis Jean Charest combinés ensemble, en fait, je pense. Lucien Bouchard avait adopté la loi sur l'équilibre budgétaire dans les années 90, mais okay. Si je me trompe pas, hein, mais là, tu peux me corriger si je me trompe. Mais à ma connaissance, c'est Lucien Bouchard qui a commencé avec le truc de l'équilibre budgétaire en disant genre que pour faire un référendum gagnant, il fallait avoir des conditions gagnantes, puis là, ça prenait genre un déficit zéro, puis un équilibre budgétaire, puis que la dette était trop haute.
Oui, effectivement.
Et là, Jean Charest est arrivé après et avait modifié la loi sur l'équilibre budgétaire pour permettre au ministère de faire un excédent et de le remettre. Parce que là, avant, sinon, ce qui arrivait, c'est que fait que tu arrives à zéro. Fait que là, quand il restait genre 2 mois à ton budget, puis tu réalisais que tu avais des excédents, mais tu faisais des rénovations dans les bureaux du directeur. Tu sais, c'était juste stupide. Là. Il y avait du pitchage d'argent dans tous les sens. Là. Mais c'est ça. Fait que Jean Charest avait amélioré la loi, avait mis plus de... C'était plus encadré. Le Fonds des générations, c'est les libéraux. Ils ont fait quand même certaines affaires qui avaient du bon sens, les libéraux. Ils ont quand même été là 16 ans.
Les grandes mesures d'austérité de M. Couillard, là, est-ce qu'aujourd'hui, on est... Tu sais, je me mets à... C'est juste j'essaie de me placer un peu à la place de la CAQ présentement. Puis est-ce que j'irais remercier M. Couillard d'avoir fait cette austérité-là ou je continuerais de croire que c'était une mauvaise idée?
Moi, je continuerais de croire que c'était une mauvaise idée, personnellement, parce que de la façon que ça a été fait, on n'a pas fait les coupures aux bonnes places. Il faut réinvestir en annuer en double. Puis on l'a vu, là, le déficit d'infrastructure au Québec est dégueulasse. Là. On est rendu dans les milliards et des milliards et le ministère des Transports ne sait plus quoi en faire.
Ben, attends, c'est au niveau des ponts, là, j'ai vu ça
passer. Ouais, les ponts et les routes, là, ça n'a juste plus de bon sens.
Comme ça, là. Ça n'a pas de maudit bon sens.
Non, ça n'a plus de bon sens.
Mais ça, après. Bon, là, on dérive un peu, j'en suis conscient, là, mais c'est parce que c'est dans le sujet. Ça, malheureusement, je veux dire, bon. Pas tous les ponts, évidemment, mais ceux qui traversent les cours d'eau principaux, on doit nécessairement se référer au gouvernement fédéral pour avoir les subventions, vu que c'est régi par le gouvernement fédéral, les eaux.
Je sais pas, parce que c'est compliqué, là, mais à ma connaissance, les ponts appartiennent toujours, sauf ceux qui ont été vendus, appartiennent toujours au provincial en raison que la propriété civile s'attache au droit civil au Québec, donc c'est tout le temps à nous.
Ah, d'accord.
Mais
d'accord.
Je pense, hein, mais peut-être que la juridiction de ce que tu traverses est fédérale, mais je pense que l'infrastructure elle-même est provinciale. Par contre, le fédéral s'est immiscé dans les compétences et donc donne des subventions pour des projets qui n'ont pas rapport dedans.
Ben là, ça...
mais je pense que les autoroutes qui traversent les frontières, elles, sont au fédéral, genre la transcanadienne. Oui. Je pense que techniquement, elle est au fédéral. Mais ça, il faudrait que je m'informe. Je ne suis pas un Je suis pas juriste ni un spécialiste là-dedans. Là.
Ouais, non, non. Mais
je me débrouille, là, mais pas à ce point-là. Ça, c'est des sujets un peu plus touchés. Là.
Mais si tu
mais je te dirais plus que c'est un déficit dans le sens que on a juste fait, pour arriver à un déficit zéro ou pour arriver à l'équilibre budgétaire, dans d'autres termes, on va couper dans quoi? Ben, on va couper les infrastructures, on le fera l'année prochaine.
C'est ça.
Mais finalement, on ne le faisait pas l'année prochaine. Puis là, on finit par le remettre, puis
ouais.
En ne voulant pas donner une dette aux générations futures, on leur a donné une autre forme de dette quand même. On leur a donné une dette d'infrastructure à place d'une dette monétaire. Et honnêtement, je regarde ça aller, puis je me dis peut-être que la dette d'infrastructure est pas mal pire que la dette monétaire, parce que tu peux jongler un peu avec une dette d'infrastructure, quand le pont tombe, il tombe. Là.
C'est parce qu'il faut à un moment donné, c'est qu'il faut comprendre, qu'il faut faire la nuance entre ce qui est, bon, d'une certaine façon, immatériel et d'autre part matériel, je veux dire. Puis tu l'as très bien dit, si le pont, il tombe, il tombe.
Oui, puis bon, ben, on l'a vu avec le viaduc de la Concorde. Là.
Ben, justement.
Ça tue du monde. Hein?
Tandis que le pivot monétaire, bon, il y a toujours façon de rafistoler les coins pour en arriver à une conclusion plus ou moins logique. Fait que, ouais, c'est un peu touché comme question. Puis en fait, bon, ben, ça me mène à une autre affaire que je voulais peut-être parler, là, justement. Crois-tu? Ben en fait, je pense à travers tout ce qu'on vient de dire, tout ça, que dans les deux prochaines années, du moins, ou pour le reste du mandat de M. Legault, il risque d'y avoir quand même quelques tensions avec le gouvernement fédéral.
Ah, il va en avoir énormément, mais ce ne sera pas juste avec Legault. Toutes les provinces vont vouloir leur part du gâteau.
Plus qu'avec le Québec, tu penses?
Ah oui. Le Québec va vouloir sa part, évidemment, du gâteau parce qu'il va avoir été touché de plein fouet. Mais, je veux dire, l'Ontario, ils en ont mangé une tabarnouche. Puis, l'Ontario, ils ont des problèmes, eux autres aussi. L'Alberta avec le pétrole, ça va pas bien. La Colombie-Britannique, elle veut rien savoir du pipeline. Puis, la Colombie-Britannique dépend quand même pas mal du commerce puis du tourisme avec l'Asie. Donc là, puis là, les tensions avec la Chine augmentent. Donc là, ça va être compliqué. Saskatchewan, Manitoba, ça va faire comme d'habitude. Là, ils vont prendre ce qui passe. Là. Puis, mais l'Atlantique, par contre, je veux dire, ça fait très longtemps que l'Atlantique est cassé. Puis l'Atlantique, ils sont endettés par-dessus la tête. On est rendu au point où un des candidats chefferie du PQ propose de racheter le Labrador en échange de payer sa dette. Puis la dette du Labrador, je pense que c'est 15 milliards. Puis ils veulent faire faillite. T'sais, nous autres, on fait un déficit cette année, puis on est comme, c'est pas si pire, 15 millions. Ouais.
C'est PSPP.
Ça vous donne une idée. Oui, c'est PSPP. C'est pas le Saint-Pierre Plamondon qui proposait ça. Proposition assez. Moi, j'avais trouvé ça drôle. Là. Drôle, mais dans le bon sens. Là. Mais il y a des ressources au Labrador, tu sais. Mais l'Atlantique, en général, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, tout ça, ils ont un déficit d'investissement majeur. Là. Le fédéral, faudrait. Tu sais, ces provinces-là, je sais pas si. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour que ça arrête? Ben, c'est qu'il faut une unification de deux provinces?
Il y a deux variables, si je peux le dire, à prendre en considération. La première, évidemment, la fameuse démographie. Puis deuxièmement, ouais. Ben, tu l'as dit, les ressources. Maintenant, si tu n'as pas la démographie, puis pas nécessairement les ressources pour satisfaire les besoins contemporains, ben, à un moment donné, t'es nécessairement délaissé. Là.
Non, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, ils n'ont pas de levier pour forcer le fédéral. On le voit, là, ils vont tout le temps suivre presque le pouvoir. Parce que ça leur prend ça s'ils veulent avoir la moindre affaire. Parce que ah oui, on s'entend, l'Atlantique, l'expression voter du bon bord, pour eux autres, c'est vrai. Là.
Ah non, mais justement, ben, on le voit très bien dans le dernier sondage, justement. Bon, évidemment, pré-scandale, ça va de soi. Mais tout l'Atlantique aujourd'hui retomberait rouge de A à Z.
Oui.
C'est-tu?
C'est plate, là, c'est pas très bon pour la démocratie, mais enfin bref.
Ouais,
quand tu regardes ça, c'est sûr que toutes les provinces vont vouloir leur morceau, puis moi je pense que le fédéral va se ramasser dans une situation où il n'y aura pas le choix de dire non beaucoup.
Mm-hmm.
Et là par contre, il faut qu'il évite de tomber dans le piège. Ben, dans le piège. Dans le piège de la bonne vieille méthode Jean Chrétien, Paul Martin, de juste pitcher son déficit aux provinces. Parce que là, s'il fait ça, il y a des provinces qui vont juste pas être capables. Si le fédéral fait... Bon, ben nous autres, on coupe les transferts en santé, coupe les affaires en infrastructure, on redevient un État, tu sais, plus... qui dépense moins, puis coupe des fonctionnaires, puis tout ça. Ben non seulement ça va faire un effet ricochet parce que ben les fonctionnaires, c'est les employés, les impôts, c'est. Tu sais, je veux dire, juste là, fait juste penser à l'Outaouais, là, tu sais, s'il commençait à sacrer ben du monde dehors, là.
Ah non, mais.
Ouh, vous allez trouver ça rough, vous autres.
Ça serait pas, c'est clair.
Ça serait pas. Fait que, tu sais, c'est tellement une situation compliquée. Je suis content de pas être au gouvernement fédéral en ce moment parce que ils l'auront pas facile, là. Hey boy. En plus, déjà que l'Alberta voulait sacrer son camp un peu.
Mais en même temps, ils l'ont pas cherché un peu. Tu sais, là, comme. Je dis ça de même, là. Ils l'ont pas cherché un peu. Je veux dire, ils ont tellement. Le gouvernement fédéral, dans les dernières décennies, et surtout depuis les années 60, pour le dire, cherche tellement à centraliser ses pouvoirs décisionnels à Ottawa, justement, qu'à un moment donné, je veux dire, tes provinces, quand que tu sais pertinemment, et qu'aujourd'hui ça sera fait d'autant plus, que l'Est et l'Ouest de ton pays est absolument et catégoriquement divisé. Comment tu peux en arriver à une conclusion logique, et c'est pour ça qu'on entend des doubles discours continuellement de la part des chefs de partis fédéralistes. C'est normal, c'est logique, il n'y a rien de plus logique en fait. Mais voilà que la COVID tombe, voilà que l'hypocrisie du gouvernement fédéral tombe également, et là, d'autant plus qu'on a l'hypocrisie en pleine face de la famille Trudeau qui tombe également. Alors là, c'est un espèce de beau ramassé que tu mets dans le chaudron.
En plus de ça, ce scandale-là, ce scandale-là de la charité, oui, parce que, bon, ça serait déjà mauvais, ça serait déjà un gros scandale en période normale, mais là, ça tombe en pleine pandémie. Quand on est en train de chercher les gens qui ont abusé de la PCU, puis déjà, il y en avait qui critiquaient qu'on commence à chercher ça, mais moi, je suis pas d'accord, là. Faut bien les trouver, ceux qui fraudent. Et l'autre affaire, surtout, c'est que il fait ça pendant que le Parlement est suspendu. À cause qu'il a pris il a fait des accords en arrière-plan avec le NPD.
Ouais, ben,
pour réussir à suspendre le Parlement en échange d'augmenter des
cotisations. C'était un gamble, il l'a pris. Malheureusement pour lui, ça n'a pas nécessairement tombé dans le bon.
S'il n'avait pas fait sa niaiserie, ça aurait été correct.
Là. Ah, ben, ça avait passé dans le bon.
Il est tombé dans le piège complètement. Hein.
C'est certain. Mais bon.
D'ailleurs, moi, je félicite les conservateurs d'avoir été aussi rapides, sa détente que ça, sur la plainte au commissaire à l'éthique.
C'est parce qu'à un moment donné, il fallait aussi. Là.
Ben, c'est parce qu'à un moment donné, là. Moi, je suis content de la réponse. D'ailleurs, est-ce que le NPD a sorti une réponse à ça?
Non,
j'ai pas rien vu passer là-dessus.
Pas du tout. Écoute, de toute façon, je pense pouvoir le dire. S'il y avait eu une réponse de leur part, Jérémy nous en aurait fait part assez rapidement.
Ben oui, c'est ce que je me dis.
Non.
Moi, j'ai rien vu passer. J'ai juste vu les conservateurs sauter à pieds joints là-dedans.
Donc, tu vois, c'est ça.
Et le bloc a été.
Oui, ben,
moins agressif, les conservateurs, un petit peu plus.
Je pense que tout est logique dans cette histoire-là, et je suis persuadé. Bon, je ne sais pas, là. Croyez pas que je le sais, je ne sais pas. Mais je pense que le Bloc et les conservateurs se sont parlé sur cette question-là. Parce que d'une part, les conservateurs sont sortis sur le commissaire à l'éthique. Et d'autre part, le Bloc est sorti sur le fait que M. Trudeau devrait laisser sa place pour le moment. Donc,
mais c'est comme concerté, c'est vrai, les messages sont complètement bien.
Exactement, c'est ça. C'est ça, c'est justement, il y a vraiment une concertation qui s'est faite. Je sais pas si elle était voulue, j'ai vraiment aucune idée. Mais si.
Bon, peut-être que les gens au Bloc se sont dit, si on se rapproche trop du message des conservateurs, ça va sonner. Surtout qu'eux autres, ils veulent pas mener trop de train à cause du scandale avec Alain Thérien et Jacques Meek.
Non, exactement.
Ils veulent pouvoir en glisser une puis avoir l'air plus raisonnable, peut-être un peu. Là.
C'est ça.
On le sait pas, mais peut-être qu'il y a eu des discussions, mais je sais que Denis Trudel, un député du Bloc, lui, sur Twitter, il a ramassé Trudeau, hein. Il dit, je sais que c'est pas de mes affaires, mais je pense que le Canada mérite mieux que Justin Trudeau. Comme premier ministre, il dit, oh, boy.
Tu vois.
C'est assez.
Non, mais tu sais, c'est qu'à un moment donné aussi, je veux dire, qu'on soit souverainiste ou pas, là, je veux dire, à un moment donné, tu veux le bien de tout le monde. Puis quand tu vois ça arriver, puis tu penses justement aux pauvres Canadiens et Canadiennes qui vivent, exemple, en Alberta, je dis ça de même.
Ah, en Alberta, ça doit être...
Non, mais tu sais, c'est ça, tu peux...
Il laisse déjà, fait que là, ça doit juste être incroyable.
Tu peux pas t'empêcher d'avoir une pensée pour eux. Je veux dire, quand même, ça va être... Une fois que le Québec va être indépendant, ça va être quand même nos premiers partenaires économiques. Alors, je veux dire... Il y a quand même cette pensée-là qui est derrière. Puis, on peut pas se mentir. ce que M. Blanchet a dit, ça a sa légitimité d'être. Ce que M. Trudel a dit, ça a sa légitimité d'être. Et les conservateurs, ce qu'ils ont dit, ben ça s'applique à tout l'ensemble canadien et c'est parfait. Je n'ai rien à dire contre ça, c'est excellent. C'est
on utilise le fonctionnement des institutions avec le commissaire à l'éthique qui sort à ça. Je veux dire, c'est normal. Hein.
C'est ça,
par contre, c'est je ne sais pas si on n'est pas. On faudrait peut-être donner des dents au commissaire à l'éthique, là, parce que si tu fais.
C'est sûr que
ça serait coupable trois fois puis ça fait rien. Ben là...
Si ça reste un chihuahua, on n'ira pas loin avec ça. Je suis bien d'accord avec toi. Mais, tu sais, ça malheureusement, ben je dis ça malheureusement, mais c'est vrai que ça demande énormément de travail à l'interne comme à l'externe. Le problème, c'est que ça demande d'une certaine façon une révision constitutionnelle. Ce sont des paliers administratifs qui ont été mis en place de façon indépendante par le gouvernement et le Sénat de facto, pour assurer le statu quo du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Alors, nécessairement, changer ça, ça demande de changer d'une certaine façon la Constitution, et là, ça...
Ouais, il n'y a pas vraiment de personne qui veut faire ça. À part Jérémy, là.
À part
Jérémy. Et M. Bastien aussi, M. Bastien, va bien.
M. Bastien, peut-être, également. Mais non, c'est ça va aller loin, ça va aller loin. Ben, du moins, ça va aller loin, j'espère que ça ira loin. Maintenant, après, à quel point que ça va être qu'on va être en mesure de fonder tous ces propos-là, ça reste à voir parce qu'on s'entend que la famille Trudeau ont probablement les meilleurs avocats du pays à leur dos. Plutôt à leur côté, je devrais dire.
Ouais, c'est ça. Quoique, il y en a aussi qui ont du talent contre eux autres, là, mais... C'est certain qu'on va en reparler plus. Moi, j'aimerais bien ça qu'on réussisse à avoir Natacha avec nous pour en parler, pour avoir la perspective conservatrice. Parce que là, nous, on a la perspective de deux personnes que le Canada... Oui, c'est intéressant, mais tu sais...
C'est un peu...
C'est pas notre... La priorité, à toi puis moi, je dirais que général, c'est pas la politique fédérale. Fait que ça, on est moins un petit peu dans les affaires de la Chambre des communes, le commissaire à l'éthique, alors que Natacha, ça serait intéressant de vraiment, elle connaîtrait peut-être plus le déroulement en arrière.
Écoutez, chers auditeurs, on va s'arranger pour que le prochain balado porte sur la question avec Natacha. Je pense qu'effectivement, ça serait pertinent. Mais en même temps, ce que tu as dit, ça révèle quand même quelque chose d'assez intéressant. Ça démontre qu'on devrait, par soi-même, se développer une meilleure idée de ce qu'est la politique fédérale à l'heure actuelle, ce qui en était avant et ce qui va être dans le futur. Parce que je veux dire, c'est pas demain que le Québec va être un pays, puis il faut se faire à l'idée, tu sais.
Non, je sais, mais je veux dire, on n'est pas des deux de pique non plus, mais c'est juste pour dire que ça serait le fun d'avoir l'opinion de quelqu'un qui est vraiment investi là-dedans, tu sais.
Oui, oui, exact.
Mais, ou que ce soit Jérémy aussi, peut-être, là, Jérémy qui serait... Mais là, Jérémy est en Abitibi, hein, fait que l'Internet en Abitibi, pour ceux qui sont pas au courant, ben moi, vous donner une idée, télécharger un jeu, ça m'a pris 36h30, fait que, tu sais, dans le temps, là, c'est...
Bon. Puis je veux dire, en tout cas, moi, c'est ce que je trouve bien ironique là-dedans, c'est que, bon, ben, vous le savez maintenant également, je viens d'Outaouais, tout ça, et en Outaouais, on n'a jamais vraiment eu ce problème-là de l'Internet, du moins... Pas dans la région urbaine de
ouais, mais hey, entre vous autres et nous autres, il y a comme une forêt genre de 300 km aussi.
Non, mais tu vois, c'est ça. Vraiment pas. C'est un game changer complètement. Puis c'est problématique. Ça, on peut pas s'en cacher. Complètement changement de sujet, je me permettrai quand même, parce qu'on ne tendra pas à conclure ce balado. Nous avons créé, chers auditeurs, très récemment, notre compte Twitter et notre page Instagram. Je vous invite fortement à aller vous y abonner. On va publier évidemment du contenu, juste pour vous donner un peu une idée de comment on fonctionne à l'interne, on a tous nos tâches respectives. Je vais personnellement m'occuper de ces deux comptes. Alors, je vais m'arranger pour publier là lorsque ça va valoir la peine du contenu intéressant.
T'as publié une photo de nos nouvelles cartes d'affaires.
Oui, nouvelles cartes d'affaires également, oui. On a fait ça récemment. Donc, voyons, on essaie vraiment de développer un peu notre branding, si je peux le dire comme ça.
Notre image de marque.
Exact. Image de marque, merci Sam. Alors, je pense que ça fonctionne bien. Vous nous direz ce que vous en pensez. Puis, évidemment, si vous êtes dans la région de la capitale nationale, en Outaouais ou en Abitibi, laissez-nous le savoir. Ça va nous faire plaisir de vous mettre en contact avec les personnes ressources. Mais c'est ça. Donc, je voulais juste faire cette parenthèse-là. Je trouvais ça pertinent. Puis,
mais aussi, tant qu'à faire cette parenthèse-là, on pourrait aussi annoncer le fait qu'on est officiellement un organisme
non lucratif. C'est vrai, on l'a presque oublié, celle-là. Effectivement, Sam, récemment, on a eu la confirmation là, de Registre Entreprises du Québec qu'on a officiellement été immatriculé. Et notre première mise à jour annuelle a également été confirmée. Alors, on est officiellement une organisation à but non lucratif.
Donc, ce qui fait que vous savez maintenant que votre information est on fera pas de profit avec ça. Là.
Non.
En fait, on fait pas une scène avec ça déjà, là, mais là, ouais, maintenant, c'est officiel et qu'on fera pas de profit avec ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est investir l'argent qu'on gagne. Mais là, en ce moment, on gagne absolument rien. Et investir cet argent qu'on gagne dans de l'équipement et pour nous permettre de survivre.
On pourrait, parce que idée de transparence quand même, on peut déjà vous dire aussi que dans la mesure où on a des dons, tout ça, effectivement, on les dépense. Et à la fin de l'année, lorsqu'il va falloir faire nos relevés d'impôts, c'est Jérémy lui-même qui va s'occuper de tout ça.
Il est supposé, en tout cas. Peut-être qu'il va réaliser qu'il s'est embarqué dans quelque chose d'un peu trop élevé.
Ouais, mais ça, tout simplement pour vous dire que on est planifié, on sait exactement où on s'en va. Puis c'est tout ça est dans l'idée de vous proposer du contenu de plus en plus de meilleure qualité. Puis je pense que ça fonctionne. Alors restez à l'affût parce que d'ici la fin de l'été, moi je peux vous garantir une affaire, il va y avoir beaucoup de changements, que ce soit sur le site web, sur les médias sociaux ou sur YouTube également, parce qu'on le répète encore une fois, on va commencer très, très, très prochainement les capsules de vulgarisation, vidéo, etc., etc.
Oui. Alors, évidemment, puis, d'ailleurs, le site web va avoir une refonte pour la section balado bientôt et la section vidéo est en construction. Donc, on va avoir quelque chose de tout beau, tout neuf très bientôt de ce côté-là.
Donc,
mais, juste pour conclure, je pense...
Bah oui, vas-y fort.
N'hésitez pas, si vous avez des suggestions d'invités, des suggestions de sujets. Parce que, tu sais, à la fin de la journée, nous autres, on a nos occupations, puis ça, puis des fois, on peut oublier des sujets. Et on essaie de représenter toutes les sphères, toutes les idéologies, toutes les idées qui circulent, mais vous savez, la politique, c'est subjectif, et humains comme nous ne sommes pas objectifs. Et donc, c'est certain qu'on prend des sujets qui, des fois, on préfère, on est plus à l'aise avec. Comme là, aujourd'hui, on n'a pas parlé du projet de loi 61.
Non, effectivement.
On attend qu'il y ait plus de détails, en fait. Mais ça risque... On aimerait ça faire une vidéo. On aimerait ça faire un balado sur le projet de loi 61 quand que les détails vont sortir. Parce que là, on sait que M. Dubé est rendu à la santé et que Mme Lebel est rendue à l'ancien ministère de Dubé, qui est le conseiller du Trésor.
De mémoire, ouais.
Ouais. Fait que là, c'est elle qui doit faire le projet de loi 61, et donc, vu qu'elle est plus ferrée dans le droit, ils s'attendent à ce que le projet soit mieux ficelé un peu. Et donc, potentiellement, que le projet de loi 61, qui était vraiment mal fait la première fois, deviendrait un projet plus consensuel, Dieu sait. Ou, alors, ça va rester un projet très similaire, ils vont le passer au baillon, et là, ça va devenir le sujet pendant les 12 prochaines semaines.
C'est pas la prochaine année ou les deux
prochaines. C'est pas la prochaine année, c'est ça. Ça va juste tout le temps.
C'est pas la question de l'urne. Ça peut peut-être même se rendre jusqu'à là.
Ouais, peut-être. Puis, tu sais, un moment donné, on aimerait ça faire un... On aimerait ça aussi discuter de la réforme de scrutin. Qui, là, on va avoir le référendum en 2022, en théorie, là, à moins que la CAQ recule là-dessus. Mais il me semble qu'on est censé avoir un référendum sur le mode de scrutin en 2022. En votant, dans le fond, qu'est-ce qui va arriver, ce que j'avais compris? C'est que vous allez voter pour votre candidat et en dessous, il y aura une sous-question. Êtes-vous pour la réforme de scrutin? Oui, non. D'ailleurs, avant qu'on conclue, ce serait vraiment le fun si on pouvait avoir plus de questions comme ça qui nous étaient posées. Comme plein d'États aux États-Unis, là, t'sais, voulez-vous une réforme de telle chose comme ça, légalisation de la marijuana, des choses comme ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas...
Il y a beaucoup de choses à dire sur la démocratie américaine, mais ça, effectivement...
Ça, j'aime bien ça, moi.
C'est très pertinent.
Est-ce qu'on ne peut pas être plus actif dans notre propre... Ben, d'ailleurs, nous autres, on sert un peu à ça, c'est qu'on essaie d'activer les gens, d'aller chercher des idées. T'sais.
Légitimement, qu'on le veuille ou non, C'est ceux qui sont au pouvoir qui vont avoir les capacités, là, on va dire, physiques de changer les trucs, malheureusement. Alors, plus on fait de moyens de pression, mieux c'est sur ces gens-là, d'une certaine façon. Alors, effectivement, des questions comme ça, plus récurrentes pendant les élections, ce n'est que bénéfique.
La participation des citoyens, tant qu'à moi, c'est une bonne chose.
Puis ça recrée une sorte de confiance aussi, au final, là.
Oui, effectivement, ça a un peu enlevé le cynisme, tu sais, parce qu'on s'entend qu'en ce moment, il y a 33% des personnes qui n'ont pas voté aux dernières élections.
Non, ben, c'est beaucoup.
C'est quand même beaucoup, le tiers de ta population qui est juste.
C'est
à quoi ça sert? Mais tu sais, je sais pas, là, c'est ce qui décide de ce qui se passe dans ta vie de tous les jours. Tu sais, je sais pas, là, tu voudrais payer moins d'impôts, ben, c'est un peu là que tu te passes. Tu veux avoir les meilleurs soins de santé, ben, tu sais, je veux dire.
Ah, voilà. J'ai juste oublié, là, avant de faire la conclusion comme telle, j'ai oublié de vous dire également qu'on a officiellement créé un courriel au nom de l'agenda. Donc, c'est vraiment l'agenda.media. Donc, l'agenda.media, tout en un mot avec ben, le point, justement, entre l'agenda et media. @gmail.com. Alors, à partir de maintenant, ce qu'on vous demanderait, c'est de nous écrire directement à cette adresse-là, malgré le fait que vous connaissez la mienne et celle de Samuel personnellement. C'est juste, ça va être beaucoup plus facile pour nous de cadrer tout ce qui va être entrevue ou texte du public, etc., etc. Alors, on vous invite fortement à nous écrire le plus que vous pouvez ou juste nous écrire également sur Messenger, directement sur la page Facebook de l'agenda également, ça va faire le travail. Et sur ce, j'espère que ce balado vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à nos médias sociaux. Et allez voir l'agenda.ca pour plus de détails, évidemment. Et sur ce, au prochain épisode. Au revoir.